Gaston Bachelard, 1884-1962, rediffusion, histoire et formation de l'esprit scientifique. Aujourd'hui, Gaston Bachelard à la Sorbonne, à l'occasion du centenaire de la Révolution de 1848. Avant tout, Gaston Bachelard avait été heureux d'enseigner. Il confiera d'ailleurs un jour, « Et si je suis si vieux, c'est peut-être parce que je n'enseigne plus. » Voilà. Mais nous avons cette chance qu'il n'aura pas été chiche de sa parole enregistrée. La radio fut en outre pour lui plus qu'un micro, une véritable maison onirique. Certes, un seul axiome dialectisé suffit à faire chanter toute la nature. Mais si l'analyse des œuvres scientifiques peut faire l'objet d'un traitement authentiquement philosophique qui n'aille pas au-delà des connaissances d'un professeur, elle exige de lui un investissement exactement semblable à celui déployé dans l'analyse de l'art. C'est ainsi notamment qu'avec lui, nous avons pu entrer par la grande porte de la Schola Quantorum. La durée intime est une œuvre, nous dit Gaston Bachelard, et c'est au titre de cette œuvre qu'il voulait travailler à une philosophie du repos. C'est le temps particulier de cet investissement, de ce travail, qu'il évoquait avec Arthur Adamoff en 1955.
À l'occasion de la notion de temps, toutes les philosophies viennent s'opposer, se contredire, se répéter. Et il est mille manières de commencer une leçon sur le temps. On le prend dans l'univers ou dans le cœur de l'homme, on lui donne ou bien la totale régularité du mouvement des astres, ou bien le poids de tous les accidents, le poids de toutes les contingences. Les uns en font une forme a priori, les autres une expérience. Bref, questionnez un philosophe sur le temps et vous aurez un excellent test où il confessera ses pensées personnelles.
Eh bien, dites-nous vos pensées personnelles.
J'ai toujours été obligé de faire deux séries de leçons sur le temps. La première série de leçons doit montrer que la régularité extrême du temps est une conquête tardive. La régularité du temps n'est pas une notion naturelle. Il a fallu à l'homme une puissance considérable d'abstraction pour réaliser le temps abstrait. C'est pourquoi je m'étonne souvent qu'on puisse condamner le temps abstrait comme une abstraction inerte et sans vie.
Cette régularité paraît pourtant bien simple.
Bien simple à penser maintenant. Mais vous n'avez qu'à lire une histoire des horloges pour voir la difficulté de réaliser cette continuité. La montre de poche fait de l'homme un être réglé. Dans son beau roman « Joséphine Johnson, novembre », la romancière parle d'un cultivateur qui ne sait trouver l'heure ni au soleil ni à sa faim. Il lui faut le temps factice de sa montre pour régler son travail et sa vie. « Ne vous fiez à rien de naturel, Margot, dit-il à sa femme. Il n'y a que ces petites roues qui savent compter. »
Vous disiez que vous faisiez souvent une deuxième série de leçons.
Oui. En examinant le tissu même du temps, il m'a toujours semblé que ce tissu était complexe, qu'on ne vivait pas vraiment en un seul mouvement au fil du temps. Un homme isolé est emporté à des rythmes différents dans des temporalités différentes. Et j'ai parlé de temps superposé, nécessaire pour suivre l'évolution de l'être complexe que nous sommes.
Mais vous avez écrit un livre, La dialectique de la durée. Qu'entendez-vous par là?
Je mets en doute dans ce livre la psychologie de la durée continue, qui est donnée dans la philosophie bergsonienne comme l'étoffe même de notre être intime. Examinez en vous n'importe quel filet temporel et vous verrez qu'il est essentiellement fait d'instants et d'intervalles vides. Il n'est pas continu. La continuité est toute potentielle, toute virtuelle. Il y a donc une dialectique du plein et du vide toute évolution temporelle bien spécifiée, est donc une dialectique de la durée.
Mais cependant, on a bien l'impression d'un temps qui dure continuellement.
Oui, parce qu'on ne va pas à fond d'analyse, parce que, précisément, on profite des temps superposés pour fuir l'analyse. Et l'on conclut, il y a toujours quelque chose qui dure en nous. Mais ce quelque chose n'est pas vécu, n'est pas examiné. Pourquoi alors le supposer? Non, là encore, la durée psychologique ne peut se valoriser que dans des formes humaines bien appareillées. En fait, la durée intime est solidaire d'une œuvre. La durée est une œuvre, une cohésion harmonieuse de rythme. En somme, le temps humain est plus qu'une mélodie, il est une essentielle harmonie des rythmes superposés.
Histoire et formation de l'esprit scientifique. Archives, 1947-1962. Aujourd'hui, grande conférence à la Sorbonne, à l'occasion du centenaire de la Révolution de 1848. La science au siècle dernier. Gaston Bachelard, 21 juin 1948.
Mesdames, Messieurs, l'histoire des sciences est d'abord essentiellement une histoire des génies, une histoire de la pensée géniale, essentiellement géniale, si l'on veut la caractériser par son trait dominant, il faut la présenter comme une lutte du génie contre la pensée régnante. Le génie n'est jamais un esprit tranquille. Il doit lutter contre des idées. Et, par conséquent, la pensée scientifique, prise dans son histoire, a une allure essentiellement polémique. Si on revit les progrès de la science, on se convainc que la pensée scientifique est en état de évolution permanente. Un véritable savant est toujours prêt à réformer radicalement sa pensée, à reconstruire la science sur une nouvelle base. Le progrès scientifique profond est une révolution autonome, une révolution permanente, une révolution radicale, une révolution autonome qui caractérise les progrès de la connaissance scientifique, peut-elle être étudiée en liaison avec les révolutions politiques, les révolutions économiques, avec les révolutions sociales. Et, d'une manière plus précise, peut-on vraiment faire une conférence sur les sciences en 1840? J'ai d'abord pensé que c'était là un sujet arbitraire. Mais en l'examinant de plus près, en lisant les documents, j'ai vu bien rapidement en action la solidarité des forces de cette ardente époque. La révolution de 1848 a soulevé trop d'espérance pour laisser indifférents les hommes qui consacrent leur vie à la pensée scientifique. Et dans les grandes fêtes du souvenir qui se déroulent ici, il y a un certain intérêt à rappeler le rôle que les savants de notre pays ont joué dans des événements qui ont retenti dans l'Europe entière et qui, malgré leur brièveté, ont marqué profondément le 19e siècle. Dans une première partie, j'essaierai de donner un tableau d'ensemble représentant l'état de la science au milieu du siècle dernier. Toutefois, je n'envisagerai pas les sciences humaines, je n'aborderai pas les sciences historiques. S'il me fallait parler du rôle des Michelets et des Quinets, et des plus jeunes de ce temps-là, les Renan et les Taine, il faudrait de nombreuses conférences. Je crois qu'il y a d'ailleurs un certain intérêt à considérer la science dans son aspect le plus strict, dans les problèmes de la réflexion mathématique et de l'expérience touchant le réel et la technique. Dans une deuxième partie, je rappellerai l'action sociale positive des savants de l'époque. Je montrerai l'intelligence française au service de la nation. Enfin, dans une troisième partie, j'essaierai de reconstituer cette atmosphère de confiance en l'homme, de foi dans les valeurs de la science, d'optimisme de culture, qui était au milieu du siècle dernier l'heureux climat philosophique dont nous avons une certaine nostalgie. Nous pourrons alors faire un examen de conscience et nous demander si nous n'avons pas à recevoir des leçons d'enthousiasme et des leçons d'énergie morale de cette époque disparue. Pour caractériser la situation exacte de la science au milieu du siècle dernier, il faudrait un long préambule philosophique où l'on déterminerait la valeur précise du fait scientifique, la portée d'une découverte. Telle expérience en apparence très particulière, tel théorème en apparence très spécial peut avoir une si grande action sur les connaissances scientifiques qu'il faut vraiment dominer toute la science pour en juger la valeur. Plus une science est coordonnée, plus elle est sensible à cette intervalorisation. C'est précisément le cas de la science mathématique. Cette science, au XIXe siècle, se coordonnait en école. Il y a un sens à parler de l'école française des mathématiques. Rappelons quelques grands noms, et d'abord le plus grand de tous, Cauchy, qui, légitimiste, avait refusé de prêter serment à Louis-Philippe. Binet, Lamé, Poinsot, Ptolemy, Liouville, Poncelet, Charles, Coriolis. Voilà des noms qui sont, pour un mathématicien, des souvenirs de culture impérissables. Pour un mathématicien, ce ne sont plus des hommes, ce sont des théorèmes. Mais le public philosophique sait mal la prodigieuse activité de ces savants. Par exemple, la liste des mémoires publiée par Liouville de 1836 à 1875 comprend 10 colonnes dans la table des matières de cette liste. En 1848, de jeunes mathématiciens qui devaient eux aussi multiplier les mémoires commençaient leur enseignement. Hermite, Joseph Bertrand débutait. Joseph Bertrand publia 3 mémoires en 1848. L'astronomie française venait de faire une découverte retentissante. C'est en 1846 que l'astronome Le Verrier avait, par le seul calcul, prophétisé l'existence de la planète Neptune. Cette découverte est devenue une anecdote de culture qui est commentée dans toutes les dissertations du baccalauréat, souvent d'une manière inexacte, mais l'on ne se doute pas de la somme de travail qu'a dû fournir Le Verrier, qu'on appelait Monsieur Neptune. Durant 3 mois de calcul, il fallait qu'il passe les calculs pour profiter d'une éclipse. Il y passait ses nuits. Mais c'est surtout dans les sciences physiques et chimiques que l'école française excelle. En 1848, dit le physicien suisse de la Rive, on était au printemps de la science. Les annales de chimie et de physique avaient un brillant comité de rédaction avec Gay-Lussac, Arago, Chevreul, qui devait vivre un siècle, Dumas, Pelouze, Boussingault et Regnault, autant de noms que la culture scientifique n'oubliera jamais. Dans ces annales paraissaient, fin 1847, les mémoires de De Sénarmont sur la conductibilité thermique dans les cristaux, l'œuvre vraiment très fine. Et c'est dans ces mêmes annales que fut publié en 1848 le mémoire d'un jeune savant de 26 ans, Louis Pasteur, notre grand Pasteur. Ce mémoire portait sur le dimorphisme de certains cristaux. Ce mémoire d'une importance capitale avait étonné Jean-Baptiste Biot, arbitre sévère de la science physique. C'était lui qui examinait toutes les mémoires, toutes les thèses des jeunes savants de l'époque. Edmond Becquerel, de la grande famille des Becquerel, marié d'Avis Verdet, poursuivaient ou commençaient leurs recherches. Le cristallographe Bravais publie en 1847 et en 1848 deux importants mémoires. En 1849, Foucault, qui écrivait, je crois, dans le temps de l'époque, dans un journal de l'époque, identifie les raies D du spectre solaire et les raies du sodium. Il fait précisément cette convergence de la chimie du soleil et de la chimie terrestre. C'est un point extraordinaire qui devait avoir par la suite une évolution considérable. La chimie française, s'il se peut, était encore plus active. Elle était en évolution. Deux jeunes chimistes, le champenois Auguste Laurent et l'alsacien Charles Gérard, faisaient paraître mémoire sur mémoire contre les doctrines régnantes. L'introduction à l'étude de la chimie par le système unitaire de Charles Gérard fut publié en 1848. Système unitaire, c'était le système qui était en lutte contre le système dualiste de Berzelius, qui était le système officiel, le système classique. Après des polémiques sans nombre, Laurent et Gérard, qui avaient quelques années de différence d'âge, parvinrent à convaincre Dumas de l'intérêt de leur doctrine. Dumas a été le grand chimiste de tous les régimes. Il suivit un instant les doctrines de 48, mais il rentra bientôt dans l'ordre classique, dans l'ordre officiel, et Napoléon, en lui donnant un ministère, lui disait « Vous serez mon chaptal », et en l'appelant par conséquent le grand chimiste de la première révolution. Mais enfin, les idées divergentes résumées dans les noyaux de Laurent et les types de Dumas, les types, c'est un mot qui a une importance considérable pour la philosophie chimique, sont un véritable drame de pensée. Si l'on avait le temps d'étudier la rivalité de Gérard et de Liebig, du grand Liebig de Cassel, du grand Liebig allemand, on comprendrait qu'une polémique scientifique peut avoir la tonalité d'un drame humain. Les sciences biologiques n'avaient pas moins d'éclat. De Blainville vivait encore. Magendie enseignait au Collège de France. Il s'attachait le jeune Claude Bernard comme assistant. Minette Barthes et Isidore Geoffroy Saint-Hilaire Dutrochet produisaient dans les voies les plus différentes des travaux remarquables, la plupart enseignés, proposés à la Sorbonne. Flourens, que ses ennemis appelaient Buffonnet, le petit Buffon, s'essayait à des synthèses qui intéressaient le grand public. La médecine comptait les Broca, les Trousseau, les Buchez, les Lelier, les Lelu, les Bixio. Nous verrons par la suite le grand succès du corps médical au Parlement. Boucher de Perthes presque sexagénaire, arriver à la célébrité et créer vraiment la paléontologie de l'homme. Boucher de Perthes, un bon républicain qui, dès le succès électoral du prince-président, sut prévoir le honteux coup d'État. À cette époque encore, en biologie, le grand public était intéressé par le fameux débat sur l'éthérisation. C'est en 1848, un peu en retard sur l'Amérique, qu'on essayait précisément l'action de l'éther pour anesthésier. Et c'est en 1848 qu'est né à Paris le débat sur le chloroforme. Il y aurait là des anecdotes très importantes à vous signaler, mais il ne faut penser dans cette conférence qu'aux choses sérieuses. Mais d'ailleurs, j'ai hâte de passer à la deuxième partie de cette conférence. Le tableau tout statique que je viens d'ébaucher, outre qu'il est nécessairement fragmentaire, ne donne pas une juste mesure de l'action sociale de la pensée scientifique française en 1848. Et il nous faut montrer maintenant comment, de la base au sommet, du peuple au savant, l'intelligence française était vraiment engagée à la conquête d'un idéal social. Je n'emploie pas souvent ce mot engagé qu'on galvaude peut-être trop, mais je crois pouvoir vous montrer qu'il y a eu un engagement de l'intelligence française dans cette grande époque. L'intérêt pour les sciences, qui au XVIIIe siècle avait envahi les salons, travaillait maintenant les milieux populaires. Maurice Domas en fait la remarque dans son beau livre sur Arago. Voici ce que dit Domas. Au milieu du XIXe siècle, l'homme de la rue s'intéresse aux mouvements scientifiques. Les expériences dans les cabinets de physique ne sont plus seulement suivies par un nombre restreint d'esprits éclairés. C'est la foule qui a attiré à l'amphithéâtre la chronique, la démonstration. Pour préparer cette conférence, j'ai lu avec un véritable émerveillement la collection du magasin pittoresque qui a rempli de ses brochures toute l'époque. Le sérieux des articles, leur nombre, leur variété prouvent l'étendue et la profondeur d'une vulgarisation de bon aloi. Ainsi, on peut saisir un grand désir de libération spirituelle, un réel besoin de savoir, une grande espérance humaine. Nous allons voir que toutes les classes sociales suivaient cette impulsion d'origine si profonde. En fait, l'intelligence française, dans sa jeunesse active, fit cause commune avec le mouvement ouvrier. Nous allons suivre un instant l'action des étudiants avant d'en venir à l'action des maîtres. Peuple, étudiants, savants seront ainsi caractérisés dans cette intelligence engagée qui donnera, lors de notre conclusion, la grande leçon qu'un philosophe veut tirer de la révolution de 1848. En février 1848, le peuple, les étudiants, les savants étaient unis. Les étudiants de la faculté de médecine, ceux de la faculté de droit et des lettres, participent au mouvement. Mais l'aide de l'école polytechnique est si caractéristique que nous pouvons donner cette école comme un exemple de l'engagement de l'intelligence dans l'action révolutionnaire. L'école polytechnique était, depuis de nombreuses années, un foyer ardent des idées libérales. Dans la révolution de 1830, l'école avait déjà joué un rôle actif et, à son avènement, Louis-Philippe, en remerciement de l'action révolutionnaire de l'école polytechnique, durant les Trois Glorieuses, avait promu tous les élèves au grade de lieutenant. Mais, comme on le sait, l'esprit libéral de la monarchie de Juillet subit rapidement une progressive éclipse. Et à plusieurs reprises, les polytechniciens manifestèrent une opposition. En 1844, le gouvernement de Louis-Philippe se décida à licencier l'école. Les élèves furent cependant rapidement réintégrés. En 1848, l'agitation reprit à l'école politique. Elle était alors sous la direction du général Hopic, le beau-père de Baudelaire. Les historiens dépeignent le général Hopic comme un chef bon, juste, d'une sévérité aimable, surtout si on le compare au général d'infanterie Rostolon. On avait mis précisément par brimade à la tête de l'école polytechnique qui a besoin d'officiers de génie, d'officiers d'artillerie, un simple général d'infanterie. Le jeune préparateur du chimiste Ballard, du chimiste Cumulard Ballard, dont nous parlerons par la suite, qui n'est autre que Louis Pasteur, écrit des lettres vibrantes à sa famille, à son père, le vieux guerrier de la révolution napoléonienne. Il est Louis Pasteur, notre Pasteur, au poste de garde du chemin de fer d'Orléans. Passons place du Panthéon, il donne toutes ses économies pour le succès de la bonne cause. Les journaux enregistrent cette offrande en ces termes: don à la patrie, 150 francs, par le fils d'un vieux soldat décoré de l'empereur, Louis Pasteur, ancien élève de l'école normale. Dès le mois de mars, les universitaires républicains, et ça c'est un bon exemple, créent le club de la cité pour soutenir leurs revendications politiques et professionnelles. Paul Broca demande et obtient la destitution d'Orfila, doyen de la faculté de médecine, qui avait dû sa carrière à l'appui des derniers rois et qui, le 23 février, admirez cette date, avait commencé son cours de chimie par des injures aux insurgés. On se souvient qu'Orfila était la bête noire de Raspail et leur polémique à propos du procès de Madame Lafarge, pour savoir l'action de l'arsenic, et dans toutes les mémoires. Orfila est aussi accusé de manœuvres délictueuses au détriment de la caisse de la faculté. Il sera blanchi sous l'Empire. Les jeunes chimistes, Gérard et Laurent, dont j'ai parlé il y a un instant, n'étaient naturellement pas les derniers à saluer les temps nouveaux. Ils dirigeaient leurs attaques contre ce qu'ils appelaient les cumulards. Les chimistes qui avait plusieurs laboratoires et plusieurs traitements. Auguste Laurent fut nommé en 1848 par la Révolution essayeur à la monnaie. Malheureusement, miné par les privations, abreuvé d'amertume, il devait mourir en 1853 à 44 ans. Historien de la chimie de l'art, dit de Gérard et de Laurent, ces deux savants s'étaient toujours ensemble, ne se sont pas contentés de faire de la propagande pour leur théorie chimique, défendant l'un et l'autre avec la même ardeur les idées avancées, ils n'ont pas connu un seul instant les turpitudes de l'opportunisme. Ils ont au contraire réagi en toutes circonstances contre l'oligarchie scientifique avec une vigueur et un désintéressement qui n'est pas un de leurs moindres titres devant l'histoire. On se fait une fausse idée du mouvement de l'esprit révolutionnaire si on limitait l'examen aux événements de Paris. On verra mieux l'importance de l'engagement de l'intelligence si l'on parcourt la liste des représentants du peuple à l'Assemblée nationale. On y remarque 47 médecins. Les savants aussi sont représentés. Le chimiste Boussingault, un enfant du peuple, un enfant de la place Maubert, est député du Bas-Rhin. Raspail est naturellement élu par les Parisiens. Arago est élu à Perpignan. Poncelet, que le gouvernement provisoire nommera général, est député de la Moselle. Il est mis, comme je l'ai dit un instant, à la tête de l'école polytechnique. À l'Assemblée nationale, il retrouve trois membres du corps enseignant de l'école, un professeur, le mathématicien, le grand mathématicien Liouville, un répétiteur Bardin, un examinateur, l'astronome Mathieu. Dans tout ce tableau, il y a une ombre, Boucher de Perte, candidat dans la Somme, Cuba. Mais si j'ai choisi pour montrer le rôle de la pensée scientifique, le rôle de l'intelligence française dans la révolution de 1848, de commencer par la base, en allant d'abord à un désir quasi élémentaire de culture, ce n'est pas en vue de laisser dans l'ombre le rayonnement des grandes figures, celles qui font image et qui doivent nous servir à faire une utile synthèse de l'histoire et de la légende étant à mes yeux l'indispensable auréole du personnage historique, la lumière par laquelle le héros historique a cette vertu d'enthousiasme que nous réclamons du passé pour avoir la force de forger l'avenir. Et c'est ainsi que je voudrais maintenant vous rappeler deux grands esprits, deux grands cœurs, combien différents, qui doivent être donnés comme des exemples, comme des modèles de cette confiance dans les valeurs humaines de la pensée scientifique. Je veux parler d'Arago et de Raspail. Arago peut être donné comme un exemple du savant que j'appellerai le savant dans le siècle. La science aussi a ses tours d'ivoire. Arago ne pouvait pas vivre dans une tour d'ivoire, juste une tour d'observatoire. Il lui faut d'abord courir le vaste monde, comme Alexandre von Humboldt, comme Boussingault. Il commence sa vie de savant par de longs voyages scientifiques, puis il entre à l'observatoire et retourne à Majorque avec Biot pour continuer les travaux de triangulation arrêtés par la mort de Béchamp. Les pérégrinations d'Arago en Algérie ont un imprévu que nous réalisons mal. Nous oublions les temps où les navigations et les escales étaient les unes et les autres périlleuses. Mais toute une conférence serait nécessaire pour suivre l'action scientifique du français Arago dans les domaines les plus variés de l'optique, de l'électricité, de l'astronomie. Je vous renvoie, je le répète, au beau livre que Domas a fait sur ce grand personnage. En vue précisément alors de montrer ce qu'est un savant dans le siècle, je voudrais simplement souligner la puissance de conseil que représentait Arago. C'est lui qui soutint Malus d'une sympathie constante. Malus, rongé par la maladie et le doute de soi, n'eut pas de meilleurs appuis. Arago, d'ailleurs, du fait de sa propre découverte de la polarisation colorée, pouvait soutenir le dialogue scientifique avec son génial ami. Arago fut aussi un des premiers guides de Fresnel, et il devait ainsi un des défenseurs infatigables de la théorie des ondulations en optique. Fresnel est un des plus grands noms de l'optique française. L'extraordinaire faculté d'assimilation d'Arago est surtout sensible dans le talent avec lequel il dirigeait les sciences à l'Institut. Il avait été nommé à l'Institut à 24 ou 25 ans. C'est lui qui décida. Il y avait des choses comme ça dans ce temps-là. C'est lui qui décida en 1837, l'Académie a publié le compte-rendu de ses séances. Comme secrétaire perpétuel, il prononça des éloges des académiciens disparus. Certains de ces éloges, de ces biographies, sont de véritables volumes. L'éloge de Fresnel comporte 180 pages. Il en examinait de plus près ses essais de psychologie scientifique. On serait précisément en état de constituer une cité scientifique. On verrait précisément qu'Arago est citoyen d'une cité scientifique. Voilà le nom. Voici maintenant l'homme. C'est cette fois Louis Blanc qui parle. Car il faut faire revivre les hommes, il faut les faire revivre dans leur style, en confondant dans une même valeur le style littéraire et le style psychologique. Quiconque a vu Monsieur Arago, dit Louis Blanc, avec sa haute taille, faut dire que Louis Blanc était tout petit, ses yeux ardents, ombragés par d'épais sourcils, sa tête de Jupiter olympien et sa belle figure, toute pâle alors des effets d'une maladie récente, se fera aisément une idée de l'impression que produisit l'intervention de cet homme illustre. Et Louis Blanc continue, singulièrement persuasive et douce, furent les recommandations qu'il adressa aux ouvriers. Que des hommes qui avaient élevé des barricades renversaient un gouvernement défendu par des canons et déployaient un courage qui, sur les champs de bataille, ne fut jamais dépassé, et céder en un instant à quelques bonnes paroles venues du cœur. Quelle preuve plus frappante de tout ce qu'il y a de généreux et d'élevé dans le peuple de Paris. Pas un murmure, pas une plainte, et l'Assemblée, écoutant Arago, se sépara en criant « Vive la République !» Savants, groupés dans une estime mutuelle, dans une attention mutuelle au même problème, dans un intérêt pour des recherches bien désignées, ne sont-ils pas des citoyens de la science, des concitoyens de la cité scientifique? Et quand dans notre conclusion nous méditerons sur les valeurs d'union que nous propose la science, il faudra se souvenir de l'exemple de François Arago. Mais voyons alors Arago s'engager dans l'action sociale et nous comprendrons alors précisément toute la tristesse de son évolution. Il y apporte, et je dis, un grand nom, une grande figure. Voici aussi ce que dit Lamartine. Le nom d'Arago était salué d'acclamations unanimes. Il portait en lui les deux prestiges qui fascine un peuple intelligent, la science, sorte de droit divin contre lequel les masses ne contestent pas en France, ne contestaient pas en France en ce temps-là, et le renom d'honnête homme qui fait incliner tous les fonds. Au gouvernement provisoire, Arago reçoit le ministère de la Marine. N'hésitons pas encore à faire parler Lamartine. Les uns diront qu'il parle avec emphase. Mais si nous nous mettons au diapason de l'époque, nous dirons qu'il parle avec enthousiasme. Arago prit le ministère de la Marine du droit de sa science, de son autorité et des armes savantes, de sa renommée, voilà du style de Lamartine, aussi vaste que le globe où son nom allait flotter. Par la suite, Arago devra un instant assumer la double charge du ministère de la Marine et du ministère de la Guerre. Son influence s'étend aux affaires étrangères. Il profite de sa vieille amitié avec Alexandre von Humboldt pour connaître les réactions du roi de Prusse. Humboldt lui fait connaître que la Prusse n'est pas hostile au gouvernement provisoire. C'est Arago, et il faut parler en parisien ici, et c'est Arago qui décida la chambre à acheter l'hôtel de Cluny et les collections du Champenois, du Sommerard. C'est lui qui fit donner une récompense à Vica, inventeur des ciments hydrauliques. Il est dans la mise en œuvre du télégraphe électrique, ce n'est pas rien. L'époque où le télégraphe électrique remplaçait le télégraphe de la Béchappe, on avait l'habitude de dire « menteur, menteur » comme un télégraphe. Eh bien, on ne le dira plus quand c'est l'électricité qui fait les signaux. On a plaisanté son manque d'enthousiasme pour les chemins de fer. Les chemins de fer ont autre inconvénient, il redoutait les tunnels. Non pas qu'ils font ça à leur écoulement, ils n'en craignaient que les courants d'air. Et n'oublions pas que le 19e siècle était un siècle de bonnets de coton, ils avaient tous des bonnets de coton. On raspaille par la suite, ne quittera pas pendant 10 ans les bonnets de coton de sa mère, n'est-ce pas, un double souvenir. Mais, enfin, toutes ces plaisanteries qu'on a pu faire sur le manque de perspicacité des hommes du progrès sont un moyen facile de dénigrement, sur lequel je vous demanderai de réfléchir dans un instant. Revenons donc aux choses sérieuses, hélas, dans la vie brillante de François Arago. La politique ne tarde pas à jouer son rôle habituel. Le drame entre révolutionnaire modéré et révolutionnaire avancé. Arabo et républicain, mais il redoute le socialisme naissant. Arago veut le progrès, mais comme il le dit expressément et avec un certain courage, il veut le progrès moderne. Quand le 16 mai 1848, un mouvement populaire se décide contre l'Assemblée, Arago est du gouvernement qui fait arrêter les principaux chefs socialistes. Du gouvernement qui fait, comme tous les autres, enfermer Raspail au donjon de Vincennes. Et pourtant, comme François Arago, son vicomte de l'approche de la réaction. En 1849, il est encore réélu député, mais il refuse le serment au prince président. En 1852, il ne se représente plus. Et comme si sa vie était brisée par l'échec de ses espérances, cet homme d'énergie surhumaine s'éteint en 1853, âgé seulement de 59 ans. D'Arago rapprocher Raspail, voilà qui doit soulever quelques scrupules dans l'esprit d'un historien des sciences. Certaines découvertes d'Arago, comme la découverte de l'amortissement d'une aiguille aimantée par un disque de cuivre, est une découverte précise, ineffaçable, alors qu'on serait bien en peine de désigner dans l'œuvre immense de Raspail une découverte qui puisse défier le temps. Raspail a tout essayé. Il a étudié les langues anciennes, la médecine, la philosophie, la chimie, la théologie, la botanique, l'agronomie, les insectes, les parasites, surtout les parasites. Mais de tous ces efforts, que reste-t-il? Il reste un admirable exemple, l'exemple d'une invraisemblable foi dans l'effort de la recherche scientifique, l'inoubliable exemple de confiance dans l'utilité et la dignité du savoir. Du traité de Raspail, paru en 1844, sous le titre « Histoire naturelle de la santé et de la maladie », Sainte-Beuve, n'hésite pas à écrire, c'est une façon de contrat social de la physiologie et de la thérapie. Il faut aussi souligner un trait caractéristique de l'œuvre de Raspail. Elle est animée par la certitude que le savoir est communicable à tous, communicable au peuple. J'ai relu avec un plaisir amusé, renouvelé à chaque page, les deux tomes de, et voilà le titre qui est long, mais qu'il faut dire, de la revue élémentaire de médecine et pharmacie domestique, ainsi que des sciences accessoires et usuelles mises à la portée de tout le monde. Ces deux tomes ont paru en 1848-1849. La revue a pour exergue une pensée de Sénèque, patet omnibus veritas. La vérité est accessible à tout le monde, et tout le monde lit la revue. Tout le monde écrit dans cette revue, faite en collaboration avec Raspail et ses lecteurs. Quand nous évoquions le désir de connaissance qui animait le peuple il y a 100 ans, nous pensions déjà au retentissement de l'œuvre de Raspail. Raspail aimait instruire et il savait instruire. Il assumait en toute tranquillité d'âme la dignité du savant universel. Et que de noblesse dans cette vie si simple, dans cette vie droite, rien ne pouvait faire dévier sa volonté. Il fut l'ennemi de tous les pouvoirs arbitraires. Tous les régimes le poursuivirent. Il alla en prison sous tous les régimes. Nous venons de voir que la République de 48 ne fit, hélas, pas exception. L'Empire et la Troisième République continuèrent à 84 ans. En 1874, il fut encore condamné à 2 ans de prison. De 1830 à 1834, il y eut plus de 500 procès de journaux, dont 111 pour le compte de la Tribune, alors organe de Raspail. Dans les premières semaines de la Révolution de 1848, l'action de Raspail fut considérable. Son club, celui des Amis du Peuple, rue Montesquieu, était très fréquenté. Mais là encore, la politique de Raspail était à base d'instruction populaire. Louis Blanc dit des amis du peuple de Raspail, c'était plutôt une école de science et de philosophie qu'une arène ménagée à la discussion. Et devant la haute cour de Bourges, au procès du 5 mars 1849 qu'il devait l'envoyer pour 6 ans à la prison de Doullens, Raspail pouvait dire « J'avais pour auditeur mes malades guéris, mes disciples dévoués, mes vieux compagnons dans l'œuvre de s'instruire, de faire le bien et de souffrir. » Mais après avoir, dans une première partie de cette conférence, rappelé l'état de la pensée scientifique, on a travaillé trop rapide au milieu du siècle dernier, et dans une deuxième partie, l'action sociale des savants de notre pays dans la période révolutionnaire, il nous faut maintenant, en guise de conclusion, nous demander si nous n'avons pas à recevoir un enseignement philosophique et moral et philosophique de cette époque de foi dans la science, de foi dans les grands destins de l'intelligence humaine. Cet examen de conscience, je crois qu'il est d'actualité. En effet, force nous est de constater actuellement le succès d'une longue entreprise de dévalorisation de la pensée scientifique. Entreprise souvent insidieuse et parfois éclatante. On a proclamé la faillite de la science. Et insidieusement, on a créé une petite agence. Quelqu'un estime-t-il être un peu trop naïvement les valeurs scientifiques? On dit maintenant de lui qu'il est un scientiste. Et plus souvent, cette étiquette qu'on veut injurieuse est imposée du dehors. Ce ne sont pas les savants qui parlent comme ça. Du dehors, par des philosophes qui n'ont pas pris la peine de s'informer des problèmes scientifiques. On continue à opposer l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie derrière un très grand nom. Mais on fait cette opposition, non pas pour une science du XVIIe siècle, mais aux heures mêmes où l'esprit de géométrie connaît les plus exquis raffinements. On répète que les sciences abstraites dessèche l'âme au moment où ces sciences s'ouvrent dans des dialectiques multipliées, demandant de l'esprit la plus concrète des diligences, le plus grand courage d'examen vis-à-vis de soi. On parle de demi-savants avec un trait de nous. Encore un type d'esprit dont il ne faudrait pourtant pas médire. Et je vais donner précisément à propos de cette injure, la vie du vieux Figuier qui racontait les efforts de Nips, du bourguignon Nips, et qui n'hésitait pas à dire qu'il est prudent de ménager un peu cette race utile des demi-savants. C'est peut-être parce que Nips n'était qu'un demi-savant que la photographie existe. Le problème scientifique est tellement difficile, de la production de l'image sur une plaque daguerrienne, qu'il fallait une foi en l'espérance humaine, en l'action humaine. Vous voyez par conséquent qu'il y a là une entreprise de dévalorisation de la science. Elle est si active aujourd'hui qu'elle va jusqu'à prendre une allure récurrente. Elle détruit dans le passé même des valeurs. Par exemple, de tous les points de l'horizon philosophique, on s'acharne contre le positivisme. Pour certains, la longue tragédie de pensée culturelle que fut la vie d'Auguste Comte est prête à rire. On veut bien étudier sérieusement une religion fétichiste d'une peuplade lointaine, mais qu'un savant, dans l'ivresse, mais disons exagérée, de sa reconnaissance pour les grands noms de la science, fasse un calendrier des génies, qu'il fonde un culte du souvenir des héros de la pensée, qu'il se propose comme un animateur d'un mémorial de la culture, voilà qui le désigne comme un paradoïa. On insiste lourdement sur les erreurs de prévision du visionnaire. On répète qu'Auguste Comte n'a cru ni au microscope, ni au spectroscope, ni au calcul de probabilité. On voit ça dans les copies du baccalauréat, mais ce qu'on ne voit pas, c'est la doctrine d'Auguste Comte. Et alors, naturellement, on finit par oublier que cette grande œuvre a eu une jeunesse, a eu une action. Comme il dit qu'à la lecture du cours de philosophie positive d'Auguste Comte, il ressentit une véritable secousse, mais Malebranche n'a pas dit autre chose quand il a ouvert un traité de Descartes. Il y a eu une secousse. Il y a eu la secousse contienne, la secousse du positivisme. Et on a établi le positivisme et il n'est pas mort. Mais les jugements actuels contre la pensée scientifique ne s'en tiennent pas à une ingratitude envers le passé. Ils hypothèquent l'avenir et ils mettent en cause la notion même de progrès. On connaît évidemment cette dissertation aussi. Et c'est la notion de progrès qu'ils pourraient étudier à fond pour revaloriser toutes les valeurs scientifiques. Il faudrait par conséquent voir qu'est-ce que c'est que cette notion de progrès, où est-ce qu'elle prend sa racine. Mais où est-ce qu'elle prend sa racine? Mais elle ne prend sa racine que dans le progrès scientifique. S'il n'y avait pas eu de progrès scientifique, on se demande s'il y aurait un mythe du progrès. Il y a eu des siècles de renaissance, mais le 19e et le 20e siècle, eh bien, ce sont des siècles de progrès. Il est aussi indéniable que ces progrès sont des progrès sociaux. Il y a 100 ans, au moment où les chemins de fer se multipliaient, au moment où on allongeait le long des routes les premiers fils télégraphiques, quand la photographie étonnait les yeux, l'étonnement quand on est la photographie, non seulement sur le pied, mais surtout sur le papier, on ne peut pas le réaliser, il faudrait apporter des textes très nombreux et très amusants d'ailleurs. Quand le chloroforme endormait toutes les douleurs, on ne pouvait pas douter de l'avenir de la science. Et c'est précisément en 1848 que fut composé l'avenir de la science d'Ernest Renan. L'ouvrage n'est paru malheureusement que plus tard. Mais enfin, Renan lui-même ne doutait pas que le progrès des connaissances était un progrès humain. Les journaux de l'époque, de 1848, sont naturellement remplis d'anticipations. On décrit des découvertes imaginaires que ne manquera pas de faire le siècle où nous vivons. Et on sait que toutes les anticipations sont dépassées. Les rêves du 19e siècle, c'était des rêves timides vis-à-vis de ce que nous vivons, mais que voulez-vous, c'est nous qui sommes. Mais je sais bien comment détourne le débat. Je n'ai pas le temps de l'évoquer, quoique évidemment on ait un singulier désir. Et on peut donner à la science des responsabilités qui ne sont pas son fait. Nous vivons certainement dans le plus cruel de tous les siècles. Mais ce ne sont pas les moyens qui font la cruauté. Et ce n'est pas la puissance matérielle qui fait la volonté de nuire. Ce n'est pas la connaissance qui fait la méchanceté. Mais pour faire le bilan des responsabilités de l'utilisation de la science par les instincts agressifs, il faudrait aborder une science que je n'ai pas eu à considérer dans cette conférence, la science qui appartient vraiment au 19e siècle, la science psychologique. Et vous me permettrez de rester dans l'ordre des questions que j'avais à envisager dans cette conférence. Sous cet angle, je voudrais faire une dernière observation
qui condensera bien des remarques faites au cours de ces causeries. J'oserais proposer, c'est finalement une petite leçon de philosophie qui quitte le niveau un peu trop simple que j'ai suivi jusqu'ici. J'oserais proposer cette observation comme un postulat de l'enseignement. Je dirais alors que la cruauté n'est pas objet d'enseignement, que la méchanceté ne peut être enseignée. Il n'y a pas vraiment une technique du mal. Le mal est une nature, ce n'est pas une science. Et la réciproque de ce postulat est immédiate. Quand on enseigne sincèrement quelque chose de vrai, on communique entre disciples et maîtres dans une mutuelle valorisation de l'être profond, de l'être le plus profond de la nature humaine. Considérons alors la science dans ses valeurs d'école. Il est alors indéniable que nous rejoindrons ainsi les valeurs de l'éducation populaire. Auguste Comte ne se trompait pas quand il faisait par choix des cours d'astronomie aux ouvriers de 1848. Et pris dans ses racines profondes, c'est tout l'arbre qui pousse droit, avec l'élite dégagée par la pensée scientifique, nous sommes sûrs d'avoir une élite incontestable, encore qu'elle ne soit pas toute puissante, encore qu'elle ne puisse pas tout faire. Les savants ne sont pas des mandarins, et puisqu'il nous faut retrouver des sources d'espérance, rappelons-nous que la science porte en elle une espérance qui lui est propre. La science vérifie des hypothèses et elle désapprend des illusions. Enfin, à fréquenter les savants de 1848, on reconnaît dans la science une singulière force de libération spirituelle. La culture scientifique réclame la liberté d'esprit. La pensée scientifique est nécessairement une pensée libre. Une pensée où chaque penseur, qu'il soit modeste élève ou grand savant, qu'il soit demi-savant ou qu'il ait le niveau du scientisme, il est libre de son adhésion, il apprend la liberté. Socialement, la pensée scientifique est une pensée libératrice, elle est une pensée qui éclaire l'âme entière. Et c'est dans le souvenir des hommes de science de 1848 qu'on comprend le mieux cette grande pensée de Victor Hugo. Je veux toute la liberté comme je veux toute la lumière.
C'était Gaston Bachelard, 1884-1962. Histoire et formation de l'esprit scientifique. Rediffusion. Grande conférence de la Sorbonne à l'occasion du centenaire de la Révolution de 1848. La science au siècle dernier. L'action sociale de l'activité scientifique, les valeurs de la science, examen de conscience. Un document diffusé la première fois le 21 juin 1948, précédé d'un entretien de Gaston Bachelard avec Arthur Adamoff, 1955. Bibliographie disponible sur franceculture.com, Isabelle Mézil, Hervé Evano, Bruno Nieftanski, Marc-Hubert Floriot.